un podcast France Culture. Les pieds sur terre, Karine Leloët.
L'histoire se passe fin janvier à Hong Kong, au cœur d'un centre financier chinois. Ce jour-là, un employé participe à une visioconférence avec des collègues et son directeur financier, basé au Royaume-Uni. Sur la demande expresse de ce dernier, il effectue 15 transactions sur 5 comptes bancaires différents pour un montant total de 200 millions de dollars hongkongais, soit plus de 23 millions d'euros. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que tous les membres de la visioconférence, en dehors de l'employé en question, ont été générés par la technologie du deepfake, rapporte l'AFP. L'employé avait donc sur son écran et dans ses écouteurs des images et des voix extrêmement réalistes de ses collègues, mais générées par l'intelligence artificielle. Ce n'est qu'en appelant ses collaborateurs après la réunion que le salarié a découvert la supercherie. Trop tard. Les virements avaient entre-temps atterri sur les comptes d'un groupe d'escrocs virtuoses qui, pour le moment, échappent toujours à la police. L'intelligence artificielle est un outil prodigieux dans la panoplie des cybercriminels, ceux qui cherchent à usurper une identité pour extorquer de l'argent à leurs victimes, quitte à jouer des sentiments. Aujourd'hui, une autre histoire de faux-semblants, d'arnaque à l'amour, sur un site de rencontre, cette fois. C'est un reportage de Pauline Verduzier.
Je m'appelle Tristan, j'ai 43 ans, j'habite à Vierzon et je travaille comme attaché commercial dans l'industrie chimique. J'ai été marié, deux enfants, séparés, pas mal de doutes, mais la volonté de redonner à ma vie sentimentale un nouveau départ. Je me sentais assez seul, je n'avais pas eu d'aventure depuis un certain temps. J'avais pas de recherche particulière, mais la finalité, c'était d'avoir une relation sexuelle, oui, mais sentimentale pour commencer, oui.
Je m'appelle Emma, j'ai 31 ans. J'habite à Lyon et je travaille dans la restauration. À ce moment-là, on est en confinement. Tous les restos et cafés sont fermés. Donc j'avais un peu du temps à perdre. Du coup, j'ai un ami qui habite à l'étranger et qui me dit qu'il travaille sur une plateforme de rencontres et qu'il parle avec des hommes qui se sentent seuls. Il me dit que ses conversations parfois sont à caractère sexuel. Ça me faisait pas peur, je me rendais pas compte, je trouvais juste l'idée marrante. Et je me suis dit, pourquoi pas.
J'ai pris la décision de m'inscrire sur un site de rencontre, sur Victoria Milan, qui était réputé comme étant un site international de bonne tenue. Un site payant à partir du moment où on veut engager une conversation avec son interlocutrice. Bon, bah, moi, j'ai choisi de prendre l'abonnement maximum, celui qui me laissait le plus de chances de faire une belle rencontre. Je pensais que peu importe le site, à partir du moment où je payais un abonnement, j'étais sûr d'avoir, sinon l'embarras du choix, en tout cas la possibilité de trouver quelqu'un. C'est assez addictif. On en vient après à passer, peut-être pas des heures par jour, mais à passer quand même un temps assez important parce qu'on reçoit des notifications. On a une petite étoile qui s'allume et on se dit, ça y est, un contact est en train de s'établir, c'est bon signe. Et ça agissait de manière un peu euphorisante. Sur le site Victoria Milan, il y a finalement assez peu de personnes interlocutrices qui expriment des sentiments forts, y compris après des échanges qui durent deux ou trois jours. Donc j'ai rapidement été non pas un petit peu déçu, mais un peu surpris que ça n'avance pas aussi vite que je le pensais. J'ai assez rapidement été basculé vers un site dont j'ai oublié le nom, qui a harponné entre guillemets ma présence sur Victoria Milan, Et j'ai reçu une notification pour définir mon profil et pour engager la conversation avec des femmes. On pouvait échanger quelques propos sans avoir à payer quoi que ce soit. Mais ça, c'était pour les deux ou trois premiers messages. Ensuite, il fallait recharger des crédits pour pouvoir poursuivre la discussion. Et c'est là que l'engrenage a commencé. Je me suis aperçu que pour pouvoir échanger quelques jours, il fallait abonder à hauteur de 200 ou 300 euros. Et je me suis laissé emporter. Et j'ai donc acheté pour 200 ou 300 euros de crédit de communication.
Ce sont des vrais sites de rencontres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de femmes inscrites sur ces sites de rencontres. Donc, pour que le site fonctionne et soit rentable, ils font appel à des téléopératrices. Je travaillais de chez moi avec mon ordinateur depuis mon lit ou mon bureau. Et nous, on est censé, en tant que téléopératrice, parler à travers un profil fictif. Et l'idée, l'objectif, c'était de les faire payer le plus longtemps possible pour qu'ils puissent parler à ces femmes. En gros, on est une cinquantaine de personnes derrière ces profils, je dirais. On peut être des hommes ou des femmes derrière, mais on incarne toujours des femmes de tout âge. Entre collègues, pour parler des faux profils qu'on incarne, on dit la virtu, pour virtuel. On a déjà des caractéristiques préétablies, comme les positions sexuelles qu'elle préfère, son âge, son métier si on a un, si elle a des enfants. Elle a une fausse vie déjà, donc on doit se mettre dans un personnage où on aime tel film, telle pratique sexuelle, etc. Quasiment tous les profils étaient très provocateurs. Et la description, j'adore les gangbangs, j'adore recevoir du sperme sur le visage, des trucs très vulgaires, et je trouve pas du tout réaliste. Mais du coup, je devais incarner ces personnes. Les premiers messages, c'était sexuel au début. Je pense que la plupart venaient pour avoir de suite une relation sexuelle virtuelle où ils s'imaginaient des scénarios. Si j'étais là, qu'est-ce que tu ferais? Et du coup, il fallait donner envie à la personne et faire penser à l'autre qu'on était... très ouvert d'esprit et qu'on aimait plein de choses. La plupart étaient mariés ou en couple. Du coup, la plupart cherchaient à avoir des aventures discrètes. Mais du coup, tout ce qu'ils avaient, c'était du virtuel. Des relations sexuelles virtuelles avec 80 personnes différentes, dont des hommes, s'ils savaient... Les échanges sexuels, ça me dérangeait pas plus que ça. Ce qui me dérangeait, par contre, c'était quand tous les faux profils disaient qu'elles aimaient toutes les pratiques sexuelles, comme si on aimait tout sexuellement et que derrière chaque femme se cache quelqu'un qui veut prendre tout dans la face et qui... Enfin, je commençais à me dire que j'en voyais pas une très bonne image parce que on n'aime pas toutes... Le 69, se prendre de l'urine sur soi, sur les profils fictifs, évidemment, elles aimaient tout, quoi.
Le premier échange, c'était avec Léa, une jeune femme de 23 ans et qui avait sur son profil trois photos qui étaient, là pour le coup, un petit peu plus suggestives. Des photos en petite tenue, dont une, si mes souvenirs sont bons, seins nus. Et c'est vrai que je me suis très rapidement laissé séduire. D'autant que cette jeune femme, Léa, prétendait rechercher une expérience avec un homme plus âgé. L'écart d'âge ne me gênait absolument pas et c'était plutôt, au contraire, quelque chose de très grisant. pour un homme ayant fait la moitié de sa vie de plaire ou de croire que je plaisais à une jeune femme de 23 ans.
J'avais 4 minutes donc pour répondre et au moment donné d'envoyer le message, je passais directement à une autre fenêtre. Donc une nouvelle personne à qui parler et un autre profil fictif. Donc il fallait à chaque fois que je revérifie les notes de chaque côté et du coup, il fallait vraiment se remettre dans l'histoire pour être sûr que qu'il continue de nous parler et de pas avoir de doute. Ça allait trop vite. À la fin, ça donnait mal à la tête. Parmi les profils que j'incarnais, il y avait Marianne, qui était une jeune femme de 27 ans, mais qui en paraissait beaucoup moins.
Parallèlement à mes échanges avec Léa, je continue d'être attentif aux autres profils du site. Et là, je découvre une jeune femme âgée de 27 ans, qui se prénomme Marianne, qui n'est pas du tout dans mon champ géographique, puisqu'elle déclare résider à Perpignan. Elle précise travailler dans une papeterie, ce qui d'ailleurs m'a semblé un petit peu original, si j'ose dire, parce que des papeteries, il n'en existe plus beaucoup aujourd'hui. Donc je me suis dit, tiens, voilà une jeune femme qui est fraîche nature, qui travaille dans un domaine d'activité qui n'est pas très très à la mode. Et puis, ben surtout, je dois le dire, il y avait 3 photos d'elle en profil et je suis tombé sur une jeune femme absolument solaire, splendide, blonde, cheveux longs. Et là, j'ai complètement craqué. Lorsque je commence les échanges avec Marianne, je me dis que j'ai absolument aucune chance et que... Même si j'ai aucune chance, ben je vais tenter le coup. Et quelques minutes plus tard, je reçois une réponse. Et là aussi, ça a un côté un petit peu grisant, parce qu'on se dit finalement, en approchant les femmes de cette manière, je suis un petit peu dans le vrai, et on va poursuivre. Les premiers échanges sont très convenus. Marianne se présente comme une jeune femme réservée, timide. Mais sur son profil, elle a une particularité, c'est qu'elle se présente comme bisexuelle. Et je dois avouer que c'est assez excitant. Assez rapidement, Marianne me fait comprendre qu'elle a des besoins sexuels qui sont importants et que elle aimerait bien que je commence à lui raconter des histoires érotiques, voire davantage. Je vais faire parler mon imagination et nous mettre en situation d'avoir un rapport amoureux, un rapport sexuel, avec moult détails. Je fais un peu dans la poésie, mais dans la poésie érotique. Et je ressens une écoute, une attention qui me plaisent beaucoup parce que j'ai le sentiment que ça lui parle, ça la touche et pour tout dire que ça l'excite pas mal. On commence à avoir des échanges un petit peu plus tendres. Je lui fais comprendre assez rapidement que j'aime bien qu'une femme me donne des noms doux. Elle joue le jeu assez rapidement. Et elle m'affuble de quelques petits surnoms doux et tendres. Mon chéri, mon cœur, mon ange. J'avoue que ça me fait craquer, ouais.
Il se démarque un peu des autres puisque il prend en compte les sentiments de Marianne. Il essaie de pas la froisser, il essaie d'expliquer vraiment ce qu'il ressent. Il veut vraiment faire marcher cette relation tout en prenant le temps que Marianne veut. Et je trouvais ça assez touchant d'une manière puisque il était patient pour elle. Je me rappelle de lui. Parce que il envoyait des selfies, en fait. Tout simplement, je voyais sa tête un peu tous les jours. Il envoyait des bisous par photo, comme ça. Il était plus tendre que les autres, ça c'est sûr.
Et j'en viens même à lui dire que je vais descendre à Perpignan, que je vais l'enlever et qu'on va partir en week-end ensemble et qu'on va passer deux jours formidables. Je vis ces premiers échanges un peu comme un adolescent qui vit ses premières amours. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose de très beau qui va se concrétiser. Oui, je crois qu'on peut dire que je commence à tomber amoureux de cette femme.
Je me suis dit, il a l'air vraiment à fond avec cette vertu. Je me suis dit, il se fait duper, c'est tellement triste. Ça devenait une relation de couple. Enfin, là, à ce moment-là, c'était devenu malsain. Plus que le sexuel encore, c'était un jeu, mais quand tu t'amuses avec les sentiments des autres, c'est autre chose.
On parle de se rencontrer sans pour autant arriver à trouver une échéance proche. Mais moi, surtout, je commence à dépenser beaucoup d'argent et que ça commence à me peser. Et je lui demande assez rapidement d'engager les échanges sous un autre format, qui est le format classique des échanges qui sont issus d'un site de rencontre, c'est-à-dire essentiellement WhatsApp, qui me semble être à la disposition de tout le monde et qui me semble pas poser de difficultés majeures.
Et on devait vraiment le garder sur la plateforme pour qu'il puisse continuer de payer. Donc du coup, on était là en train de jouer avec ses sentiments, moi et parmi mes autres collègues, en disant qu'on n'était pas prête à passer à une autre messagerie, qu'il faut qu'ils comprennent.
Donc moi, je n'insiste pas dans un premier temps, et puis je reviens quand même à la charge assez rapidement, parce que, encore une fois, ça commence à me coûter très cher. Je dépense à peu près 500-600 euros par semaine en rechargeant les crédits 2 à 3 fois par semaine. Je garde confiance parce que j'ai une interlocutrice qui continue de me répondre régulièrement, de me répondre à des heures parfois tardives. Et je me dis que ça peut être que le reflet de la réalité et du sérieux de la démarche.
Il fallait que tout le monde couvre les 24 heures. Donc c'était bien que certains travaillent la nuit, le matin, le soir. Le salaire est très 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 bas. Je crois que c'était 15 centimes par message ou quelque chose comme ça. À la fin, après 6 heures de travail, c'était 15 euros. C'était ridicule, c'était vraiment rien.
À l'époque, j'ai une surface financière qui est relativement importante. Et je vis ces dépenses comme une fantaisie que je peux me permettre, entre guillemets, parce que j'ai pas par ailleurs de lubies particulières, ni voiture, vêtements ou je ne sais quel autre hobby. Donc pour moi, c'est le prix de la fantaisie.
Un soir, j'étais avec une amie, on buvait du chardonnay et je lui racontais un peu mes aventures au travail. Enfin, mes aventures. Je lui racontais les conversations que j'avais avec ces hommes en tant que faux profil, en tant que Marianne, en tant que toutes les autres. Et du coup, on rigolait un peu parce qu'on racontait l'absurdité de ces échanges et du fait qu'ils avaient pas idée de qui était derrière, etc. Et je lui parle de Tristan qui envoie son selfie tous les jours et que ça me rendait triste de savoir qu'il pensait que ce soit une vraie personne et que c'était pas le cas. Et du coup, je lui ai dit, juste pour rigoler, on va sur Google, je tape son nom, le nom de son travail et le nom de sa ville et je tombe direct sur lui. Donc on rigole un peu et je rebois un verre de chardonnay et je me dis, est-ce que je l'appelle ? Est-ce que je le délivre de cette mascarade ?
Un vendredi soir, trois semaines après avoir débuté les échanges avec Marianne, je reçois un appel téléphonique tardif vers 22h. Et j'ai à l'autre bout du fil Emma.
Je lui dis bonjour. Vous êtes Tristan ? Oui. C'est un peu bizarre, je suis désolée, mais faut que vous arrêtiez de parler à Marianne, elle n'existe pas. Attendez, mais vous êtes qui ? Je dis, je suis Marianne, mais elle n'existe pas, c'est moi, c'est faut que vous arrêtiez de dépenser votre argent, n'envoyez plus de messages, elle n'existe pas.
Donc Emma me révèle qu'en réalité, Marianne est un profil factice, que c'est notamment elle. Elle me dit qu'elle se relaye avec d'autres collègues pour donner le change. Je comprends que des profils sont agrémentés de photos qui, la plupart du temps, sont des photos effectivement empruntées sur des sites érotiques. Elle me dit aussi qu'elle a eu beaucoup de peine, voire de la pitié pour moi, et elle prend sur elle pour me dire que tout ceci n'est qu'une vaste escroquerie. Je la remercie infiniment parce que je comprends que si cet appel ne m'avait pas été passé, je pense que j'aurais pu encore fréquenter ce site pendant de très longues semaines et que j'aurais pu dépenser encore beaucoup d'argent, beaucoup plus que les milliers d'euros que j'avais déjà dépensés en 3-4 semaines sur ce site. Après avoir raccroché, je suis aussi très blessé parce que j'ai le sentiment d'avoir été floué, trahi. Oui, je suis triste de perdre Marianne parce que même si je sais qu'elle ne correspond à aucune réalité, je garde quand même des sentiments. C'est assez irrationnel, mais finalement, c'est le fruit de trois semaines d'échanges très intenses qui m'ont probablement placé dans un monde un peu parallèle.
C'est le fait de tomber amoureux sans savoir qui est derrière, qui était le plus étrange pour moi. Et du coup, je trouvais ça fou de me dire on peut tomber amoureux de quelqu'un un peu générique à qui on a donné des éléments de profil, de j'aime tel film, j'aime ça, j'aime telle musique. En fait, ils tombaient amoureux parce qu'on les écoutait beaucoup aussi. Je pense que c'est ça aussi qui les faisait tomber amoureux de ces profils, c'était de se dire que quelqu'un était intéressé par eux.
En réalité, on est totalement grisé par ces échanges. On a l'impression d'être quelqu'un d'important. On a l'impression qu'on prend soin de vous. Pendant quelques semaines, ces échanges m'ont apporté du réconfort, de la joie de vivre et en tout cas beaucoup d'énergie. Ça m'a aussi pas mal déconcentré dans mon activité professionnelle, dans ma vie personnelle. Mais c'est quelque chose dont j'avais besoin et peut-être que ça satisfaisait d'un certain point de vue mon ego, mon orgueil, je ne sais pas. En définitive, et revenant peut-être à un petit peu de clairvoyance, je me suis dit que je n'avais récolté que ce que j'avais semé et que finalement, si je m'étais laissé enfermer dans ce piège, je ne devais m'en prendre qu'à moi-même.
Je savais que je n'allais pas rester à faire ce travail très longtemps. J'ai compris assez vite que ça ne m'intéressait pas, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai arrêté ce boulot quelques semaines après avoir appelé Tristan. Et puis, comme ça, je pouvais me rappeler juste de cette histoire comme une blague.
Alors, à la suite de cet épisode malheureux, j'ai mis de côté ma présence sur les sites de rencontres et je n'y suis revenu que quelques années plus tard, mais sur des sites plus sérieux cette fois et pour faire, pour le coup, une rencontre qui s'est avérée décisive. J'ai rencontré quelqu'un sur un site de rencontre avec laquelle j'ai une aventure actuellement, oui.
C'était un reportage de Pauline Verdusier, réalisé par Étienne Gracianette et mixé par Éric Boissé. Merci à Tristan, Emma, Maëlle, Philippine et Lisa. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et Nour Mohamedi, c'est notre stagiaire. Skin color.